Et les premières invitées de la matinale sont Violette Lazare et Marion Galland. Bonjour mesdames.
Bonjour.
Bonjour.
Violette Lazare, journaliste à l'Obs, et Marion Galland, journaliste à Radio France. Vous avez coécrit Vendetta, un livre-enquête qui raconte l'histoire de trois orphelins de pères mafieux en Corse, trois héritiers du gang de la Brise de Mer qui vont mûrir pendant 8 ans une vengeance, celle de tuer les assassins de leur père. Alors, pour bien comprendre de quoi on parle, je voudrais que l'une d'entre vous nous explique ce qu'est la Brise de Mer, ce qu'était la Brise de Mer d'ailleurs, entre était et est, c'est un peu compliqué.
Alors oui,
Violette Lazare.
on peut peut-être encore en parler au présent, en tout cas en ce qui concerne les héritiers. Alors ce qu'on a appelé en fait la Brise de Mer, c'est un clan criminel qui naît au début des années, à la fin des années 70, au début des années 80 à Bastia. Pourquoi on l'appelle la Brise de Mer? Parce que ses membres fondateurs, qui ont à l'époque une vingtaine d'années, se retrouvent dans un bar du vieux port de Bastia qui s'appelle la Brise de Mer, qui a disparu aujourd'hui. Tout simplement, voilà, c'est le nom d'un bar. C'est le clan criminel en Corse qui a sans doute eu la puissance la plus forte parce que ils ont commencé donc par commettre quelques braquages, puis ils ont investi l'argent de ces braquages en Corse, mais aussi sur le continent, et ils ont surtout su pénétrer le tissu économique, politique de l'île. On disait à un moment qu'évidemment c'était eux qui faisaient les élections. Dans les fratries, il y avait souvent un directeur de banque, un élu, le maire d'une commune. Donc ils ont comme ça, au fur et à mesure, tissé une emprise sur l'île, pas simplement au nord, qui allait jusqu'au sud, les infrastructures touristiques, qui en ont fait le clan criminel le plus redouté. Alors évidemment, j'oublie de dire une violence très forte, c'est-à-dire que très vite ils ont su. En fait, quand ils se sont installés, il y avait une autre bande qui était présente. La première chose qu'ils ont fait, comme dans toutes les histoires criminelles, ils ont commencé par décimer littéralement les membres de l'autre clan qui était déjà installé. Et par la suite, dès qu'il y a eu des ennemis, dès qu'il y a eu des contestations même en interne, il y a eu des exécutions très très violentes, très, très rapides. Donc ils ont également semé la terreur. J'aurais même peut-être dû commencer par là.
Alors, Violette Lazare, Marion Galland, vous le dites, ce sont des hommes qui volent, ce sont des hommes qui tuent, et qui, vous allez nourrir le livre de leur histoire, parce que pour comprendre l'histoire de ces trois fils, il faut comprendre l'histoire de la Brise de Mer. Et ces hommes-là ne veulent pas que leur fils soit comme eux. Ça, c'est le paradoxe, Marion Galland peut-être.
Oui, ben c'est quelque chose que l'on retrouve de génération en génération. On le voit bien, de suite, les fondateurs de la Brise de Mer ont tout fait pour écarter leurs enfants de ce monde. Alors, ils expliquent tout simplement pour certains que le monde a changé et que aujourd'hui on ne peut plus vivre comme eux ont vécu. Mais ils savent surtout que c'est un monde dans lequel on a souvent une durée de vie, hélas, assez courte, à cause de la violence dont parlait Violette il y a quelques instants. Et ils ont tout fait pour écarter leur fils. Ils avaient les moyens financiers. On voit notamment un des enfants principaux là dont on parle dans le livre, c'est Christophe Guadze. Il voulait faire du football, il était assez doué, et son père a tout mis en œuvre pour que son fils vive de sa passion. D'ailleurs, le jeune Christophe Guadze, juste avant le double assassinat, il vient de signer un contrat professionnel de footballeur à Nantes. Et donc, ces enfants-là, c'est aussi pour cette raison que les policiers ne les ont pas vus venir, ne se doutaient pas une seconde qu'ils vengeraient leur père de cette façon-là.
Oui, parce que c'est une vengeance qui va être mûrie pendant 8 ans. À partir de la mort de l'un des pères, Christophe Guazzelli, dont vous parliez, qui signe un contrat pro avec le football club de Nantes, va complètement basculer, Violette Lazare.
Ben oui, c'est ce qu'on a vu au cours de notre enquête. Ce qui était assez dingue, c'est qu'il y a un avant, un après. Son père va être assassiné en 2008. 2008-2009, il y a tous les fondateurs de la Brise de Mer qui se font assassiner les uns après les autres. Et Christophe Guazzelli, qui avait jusque-là réussi à s'en sortir, qui vivait hors de Corse, qui avait un parcours exemplaire, qui était en plus adoré de tous, c'était un jeune qui avait beaucoup de succès, qui était très populaire, va changer complètement du jour au lendemain. Il va complètement s'effondrer, il va quitter les terrains de foot, il va devenir ingérable pour toute l'équipe du club, et progressivement il va revenir en Corse, et quelques mois plus tard, première arrestation à l'aéroport de Marignane, à Marseille, il est soupçonné, puis il sera condamné pour un trafic de stupéfiants. Et quand on remonte le fil d'aujourd'hui, en tout cas quand on regarde son parcours pendant ces 8 années à partir du moment de la mort de son père jusqu'au double assassinat, on s'aperçoit qu'il mûrit une vengeance. Il met en place avec plusieurs complices un trafic de stupéfiants qui est au début assez anecdotique, puis qui devient pas international, mais en tout cas il y a des liens avec l'Espagne, il y a des liens peut-être avec les Pays-Bas, et ce trafic de stupéfiants en fait va servir à financer ce qui sera la vengeance. La vengeance, il va pas la mûrir tout seul. Alors il faut faire attention parce que pour l'instant, évidemment, personne n'a été condamné. Ils sont présumés innocents, ils sont mis en examen, mais le dossier judiciaire montre en tout cas qu'il y a un rapprochement entre plusieurs héritiers de la Brise de Mer dont les pères ont été assassinés, qui vont se voir très régulièrement et qui vont mûrir ensemble une vengeance pour abattre en fait ceux dont ils pensent être les assassins de leur père, mais ils en ont même pas la certitude.
Oui, c'est le point culminant, c'est en 2017 la fusillade à l'aéroport de Bastia. On a l'impression dans cette histoire, parce qu'on lit ça comme un polar, et on a l'impression que la police est toujours en retard d'un train.
Oui, la police qui pourtant les suit, ces jeunes, parce que comme Violette vient de le dire, ils ont été déjà mis en cause dans des trafics de stupéfiants, et ça fait des mois que les policiers surveillent Christophe Guazzelli et son entourage. Donc les voitures sont suivies, il y a des micros. Ils les ont, donc ils les suivent, mais pas une seconde. Ils imaginent ce qui va se passer. C'est-à-dire que la veille de l'assassinat, ils les repèrent sur la route, ils les suivent, et Christophe Guazzelli, lui, voit qu'il a des policiers derrière lui. Eh ben c'est pas grave, il continue. De toute façon, lui, son objectif, il est celui-là, il n'ira pas, il ne s'arrêtera pas. Et les policiers, eux, pensent qu'il va y avoir encore quelque chose autour du trafic de stupéfiants, mais pas une seconde, ils n'ont vu dans leur radar monter ces jeunes-là pour ces raisons-là. Et c'est pour ça que ça va être la stupéfaction totale quand quelques mois plus tard, ils vont réussir à décoder les PGP. Peut-être vous voulez qu'on en parle.
Oui, les téléphones cryptés, c'est ça ?
Exactement, donc c'est des systèmes de messagerie cryptée de BlackBerry qui fonctionnent en réseau fermé, et pendant les perquisitions, les enquêteurs vont retrouver un téléphone, et à partir de ce téléphone, ils vont tirer les ficelles et découvrir 8 jours d'échange de messages entre toute la bande. Ces 8 jours, c'est du moment de l'assassinat jusqu'à l'arrestation. Et là, ils vont voir sous leurs yeux se dessiner ce plan qui était prévu depuis des années, et ils vont tomber des nues puisqu'ils n'avaient absolument pas vu venir ces jeunes-là.
Et on découvre aussi à l'intérieur de ces conversations au fil du temps la complicité d'une surveillante de prison.
Alors dans cette histoire corse, en fait, elle est le seul personnage qui ne l'est pas. Elle est aussi le personnage le plus intrigant. Pour mener à bien leur projet, en fait, les héritiers, les fils de la Brise de Mer, ont corrompu, en tout cas attiré dans leur filet une surveillante de la prison de Borgo, dans lequel l'un d'entre eux avait été emprisonné quelques mois auparavant. Cette femme elle est en prison aujourd'hui, elle a été mise en examen, elle attend son procès. Elle ne nie pas avoir participé au double assassinat. Cette femme, en fait, elle est fascinée déjà à la base par les voyous, par les polars, par les tueurs en série. Enfin, c'est quelqu'un qui est très intéressé par tous ces sujets-là. Puis elle va rencontrer un des héritiers de la Brise de Mer qui va se servir d'elle. Et elle, Alors qu'elle n'a rien à voir avec cette histoire, qu'elle n'est pas dans une histoire de vengeance, de tradition, de filiation, rien du tout, elle va aller à l'aéroport le jour du double assassinat pour désigner au tueur la personne qu'il doit tuer parce que en fait il ne connaît pas son visage. Il ne sait pas qui c'est, il ne connaît pas son visage. La matone, la surveillante de prison, elle le connaît parce qu'il a été emprisonné à Borgo et donc elle y va pour le désigner. Voilà. Et cette personne aujourd'hui ne nie pas ce qu'elle a fait. Elle se sent appartenir à un clan. Elle se sent appartenir à ce gang. Elle continue à apprendre le corse. Et ce que montre ce personnage, c'est qu'en fait, ces histoires, ces clans arrivent à attirer à eux et à complètement faire tourner la tête de gens qui n'ont rien à voir avec eux. Voilà. Alors, ils ont une manipulation mentale assez dingue.
Ce que je voudrais savoir aussi, c'est quoi penser cette semaine. Il y a eu encore le corps d'un homme criblé de balles retrouvé en Corse du Sud, Tony Carboni, pour ne pas le nommer, qui appartient à une famille connue du grand banditisme. Est-ce que on a vu la vengeance des fils? Est-ce que quelque part c'est une histoire qui perdure en fait le système mafieux en Corse?
Alors, il faut faire très attention avec ce qui s'est passé cette semaine là, parce que pour l'instant, on n'a absolument pas les tenants, les aboutissants. La tension monte via des communiqués,
oui, mais les règlements
des familles,
de compte,
etc. Donc là-dessus, bon, faut faire très attention parce qu'on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui en Corse, oui, évidemment, les règlements de compte continuent. Le système, les spirales infernales de vendetta, de vengeance continuent à un rythme infernal. Ça aboutit même à des situations qui sont encore plus dramatiques. Il y a 2 ans, il y a quand même un homme, un retraité, qui s'est fait tuer sur une route de montagne parce qu'il avait exactement la même voiture qu'un voyou notoire qui habitait juste à côté dans le coin. Donc en fait, il y a eu une méprise. Donc en fait, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Marion... À chaque assassinat, il y a une réplique. Enfin, c'est interminable.
Marion Galland, vous êtes journaliste en Corse. Est-ce que, comme le dit le journal Le Monde, votre livre Vendetta, avec Violette Lazare, c'est le livre dont tout le monde parle, plutôt que tout le monde lit en Corse, mais dont personne ne parle à voix haute. Est-ce que cette loi du silence continue?
Alors, la loi du silence en Corse, à la fois elle existe, à la fois elle n'existe pas. C'est-à-dire qu'on peut pas dire que ça fait partie de la légende. C'est vrai que c'est parfois compliqué de parler en Corse. Et pourtant, si vous parlez avec des policiers, par exemple, ce seront les premiers à vous dire qu'en Corse, tout le monde parle. Après, c'est compliqué de parler publiquement. Mais la loi du silence, évidemment, des gens qui ont une vie tout à fait normale, tout à fait rangée, et qui vont peut-être être témoins d'un règlement de compte ou d'un acte criminel, évidemment que ces gens-là vont peut-être moins s'exprimer qu'ailleurs, mais c'est juste que la violence y est plus présente. Je suis pas sûre que sur le continent, des gens qui assistent à des choses du même type seront enclins à aller de suite parler. Mais c'est vrai que l'ambiance en Corse, elle est juste différente parce que tout le monde se connaît, parce que c'est un microcosme. Ajaccio, Bastia sont des toutes petites villes.
Merci.
Tout le monde se connaît, tout le monde se fréquente. Et donc, c'est beaucoup
Merci.
Plus compliqué pour le citoyen de s'exprimer peut-être.
Merci beaucoup à vous, Violette Lazare et Marion Galland, d'avoir été en ligne avec nous ce matin. Je rappelle que Vendetta est édité chez Plon et que c'est un très bon livre. Vous écoutez France Inter, il est 8h.